Le marchand de matériel va plutôt leur conseiller de faire un emprunt pour acheter un tracteur que de réparer le tracteur parce qu'il sait qu'il aura du mal à être payé. Que s'il fait un emprunt, la banque va financer et lui, et ça c'est dramatique. Alors bon, je ne sais pas si je dois le dire à la radio, mais...
Histoire de terre.
Imaginez, jour après jour, ce que le bon sens et l'imagination réalisent avec vous. Kilomètres de sillons, de routes, des projets en France, en Europe, dans le monde. Pour vous, Crédit Agricole, l'imagination dans le bon sens.
On va se mobiliser, c'est un an de procédure minimum. C'est pas facile à vivre pour le paysan. Heureusement qu'on est là.
La plupart des paysans ne font pas leur comptabilité. Collecte les factures, envoie ça au comptable, et puis hop, il laisse le comptable s'en démerder.
7 millions empruntés, 21 millions remboursés. Le paysan qui est dans la mouise, il baisse la tête, il courbe les chines, et puis il essaye de raser les murs. Malheureusement.
Histoire de terre, avec Jean-Paul Guilmard et Jean-Louis Bouillet, de l'association Solidarité Paysan Limousin. Le réseau national Solidarité Paysan se présente comme cela. Sous prétexte d'une adaptation à l'économie dominante, les orientations successives des politiques agricoles favorisant la concentration des moyens de production ont généré des crises à répétition aux conséquences sociales désastreuses. Ce ne sont pas seulement les agriculteurs les plus âgés ni les moins bien équipés, ni ceux qui cultivent les terres les plus ingrates qui rencontrent aujourd'hui de graves difficultés. Pour accompagner et défendre les familles, aider les agriculteurs à faire valoir leurs droits en justice, préserver l'emploi, des agriculteurs ont créé Solidarité Paysan, mouvement de lutte contre l'exclusion en milieu rural. En Limousin, Solidarité Paysan a 4 salariés et des bénévoles qui accompagnent les agriculteurs et agricultrices. En 2015, par exemple, 180 personnes ont été accompagnées par le réseau en Limousin. Nous avons rencontré Jean-Paul Guilmard et Jean-Louis Bouillet, eux-mêmes anciens paysans, ayant connu l'impossibilité de payer leurs dettes, et qui maintenant viennent en aide aux autres. La discussion s'est déroulée à Guéret, à la maison des associations, fin octobre.
Petit à petit, les cas dans les autres départements se sont révélés. Il y a eu des contacts et il a fallu mettre en place une organisation, parce qu'on avait besoin tout de même d'un peu de salariat pour nous aider dans la gestion administrative. Moi-même, j'ai été aussi en redressement judiciaire en 96 à l'époque. Il n'y avait pas d'association, donc j'ai dû me débrouiller avec un avocat. Et un des actuels accompagnateurs m'a aidé dans des négociations avec les banques, etc., pour mettre les choses au point. Donc petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus courant.
Donc si je comprends bien l'objet de l'association, c'est d'accompagner des paysans qui sont en difficulté financière.
Financière ou même des problèmes sociaux, parce que souvent, en plus des fois les deux sont liés, des fois il y a des problèmes de séparation, de trucs comme ça, qui génèrent des difficultés. Mais bon, l'essentiel quand même, c'est des problèmes financiers.
C'est souvent les problèmes sociaux sont... Viennent
on ne sait jamais ce qui découle l'un de l'autre. Et si vous voulez, le cadre est très large. Le cadre d'intervention, on va de personnes qui sont tombées dans l'addiction, par exemple, et puis qui ne maîtrisent plus rien. Alors après, qu'est-ce qui a créé l'addiction? Est-ce que c'est les difficultés ou on ne sait pas? Jusqu'à l'agriculteur qui a 220 hectares, qui a cédé aux sirènes de l'arrondissement et qui ne maîtrise plus. Vous voyez, c'est très large. Alors après, là-dedans, il y a tout le panel de ce que peut être l'agriculture aujourd'hui.
Le point de départ, c'est assez souvent le bouche à oreille, tout de même. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui est en difficulté, il se dit il y a un copain qui a aussi des problèmes, il lui dit faudrait. Ça, c'est ça. Et sinon, il y a quelques cas, ou pas mal de cas même, qui viennent par la MSA. Mais c'est clair qu'au départ, c'est surtout les problèmes financiers. Ça nous est signalé parce qu'ils sont en retard de cotisation à MSA, en retard de ceci, etc. Ils ne savent plus quoi faire. Mais il y a quelqu'un qui les tient au courant, mais ils doivent, on est presque, je dirais, intransigeant sur le principe qu'ils doivent faire la démarche. C'est pas nous qu'on ne va pas dire, voilà, si vous voulez, le centre de comptabilité nous dit celui-là il a des problèmes, on ne va pas aller de nous-mêmes dire, voilà, on vient vous aider. Non, on attend qu'il y ait un appel au secours, et là on y répond, quoi.
Donc il y a bien une. La MSA vous signale.
Alors c'est un peu le problème, la détection,
en tout cas. Alors en Creuse, c'est vrai qu'il y a quand même une. Un bon partenariat avec tous les services sociaux de la MSA, que ce soit les assistants sociaux, qui, dès qu'elles ont un cas difficile, et souvent les cas difficiles, c'est les retards de cotisation, hein, nous le signalent et on fait souvent une visite avec elles, parce qu'elles s'occupent de toute la partie sociale, parce que bon, faut faire de l'accompagnement social derrière. Et nous, on essaye de voir au niveau de l'exploitation ce qui se passe et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais c'est vrai qu'en Creuse, il y a un vrai partenariat.
Mais est-ce que ça veut dire alors qu'au sein de la MSA, il n'y a pas non plus de structure qui permette d'accompagner des paysans en difficulté?
Il y a l'accompagnement social. C'est-à-dire que ça, c'est sûr que les assistants sociaux font leur boulot de ce côté-là. Il y a un accompagnement social. Et surtout dans les cas les plus difficiles où il n'y a plus d'espoir de redresser l'exploitation, là, on se repose sur elle parce que c'est elle qui accompagne l'agriculteur vers une sortie de professionnelle souvent.
C'est quoi un accompagnement social?
Trouver un financement quelconque, c'est prendre en charge tout ce qui est maladie, c'est des fois, dans des cas les plus compliqués où il y a des problèmes d'addiction, c'est s'occuper de ça, voire faire un suivi psychologique, voire au niveau psychiatrique même des fois. C'est eux qui s'occupent de tout ça, c'est elles qui maîtrisent tout ça. Nous, on n'a pas la...
C'est
des accès aux droits
aussi.
Ouais. C'est des accès aux droits,
RSA,
ça, CMU.
Les gens souvent, voilà. Sont pas... Voilà, quoi. Et je pense que pour un paysan, d'ailleurs, de demander... Avant, à mon époque, c'était le RMI. Demander le RSA, c'est quelque chose qui lui semble inconcevable. Alors que, voilà, quoi, c'est... Bon, c'est devenu plus... C'est rentré un peu dans les mœurs, maintenant. Mais c'était tout un temps où, non, il n'y était pas question, quoi.
Mais il faut dire que c'est pas facile à obtenir, hein. Il y a quand même peu de paysans qui l'obtiennent, hein, parce qu'il y a tous des critères de bilan financier, de résultats comptables qui font que... même en gagnant rien, ils ont encore un résultat comptable qui est trop important pour pouvoir bénéficier du RSA.
Et c'est mal vécu, ça, parce que c'est dévalorisant de ne plus vivre de son travail?
Bien sûr.
Moi, j'ai demandé à leur ami, je ne voulais pas. C'est l'assistante sociale qui m'a persuadé, il m'a dit « Pourquoi tu ne le fais pas ?» Et du coup, j'ai eu un CMU, j'ai eu un peu plus d'argent chaque mois, et puis voilà, quoi. Et ça a permis de me maintenir à flot, quoi.
De survivre.
De survivre, ouais.
Vous, votre parcours, comment ça s'est passé entre le moment où vous étiez paysan, vous faisiez quoi, où, et puis vous en viviez, et puis à un moment, ça tenait plus. Vous pouvez nous raconter cette histoire-là, dans les années 90?
Oui. J'étais éleveur laitier dans la région de Boussac-Bourg. J'ai encore du mal à en parler, mais... parce qu'au départ, je crois que...
Vous n'êtes pas obligé.
Non, mais au départ, je croyais que j'étais uniquement responsable, j'avais mal fait mon boulot, etc. Et bon, de fait, il y avait des choses qu'il fallait modifier. Mais le problème, c'est le contexte économique. J'étais devenu propriétaire grâce au prêt du Crédit Agricole. Et à l'époque où l'inflation était à 2%, j'avais des prêts fonciers à 7%. Autrement dit, si j'avais été en location, j'aurais eu deux fois moins de charges concernant la location ou l'acquisition de la terre, quoi. Il y a eu des accidents climatiques qui ont fait qu'il a fallu faire des achats. Enfin, c'est le cas courant de plus en plus actuellement. On a bien vu cette année, il suffit d'un accident climatique où vous avez besoin d'acheter à l'extérieur, et ça fait exploser la trésorerie, et puis et après, derrière, vous avez les annuités, et puis vous arrivez à un stade où vous ne savez plus quoi faire, quoi. Et sinon, je voudrais revenir sur sur aussi les partenariats. Ce qui est particulier à la Creuse, c'est que la MSA pilote une cellule, ce qu'on appelle une cellule de veille. Bon, qui est chargé tout de même de
détecter
les cas difficiles ou un peu limites, quoi. Et dans l'évolution actuelle, il semblerait qu'on nous demande de faire partie de cette cellule de veille, j'appelle ça un comité de pilotage. Parce que ce qui se passait avec l'ancienne cellule de veille, ils voyaient ça, ils regardaient, alors ils faisaient soit un audit technico-financier que la chambre lui faisait, mais voilà quoi, ça, alors parfois ça marchait, et puis quand ça marchait pas, de toute façon, il nous refouillait le cas. Mais le problème, c'est qu'il y avait 6 mois qui s'étaient passés entre-temps, quoi.
Oui, le problème
le temps de faire le diagnostic, etc.
Le problème de notre intervention, pour qu'elle porte ses fruits, il faudrait qu'on intervienne beaucoup plus tôt. Et malheureusement, quand on intervient, il y a déjà beaucoup de dégâts de fait. Et c'est beaucoup plus difficile, quoi. Alors bon, ça vient du fait aussi que le paysan, il n'est pas prêt à afficher sa misère au grand public. On a un peu d'amour propre. Et tout ça fait que quand on intervient, souvent il y a déjà du dégât de fait. Alors si on arrive à pénétrer cette cellule de veille, c'est vrai qu'on aura déjà connaissance des cas, et peut-être que, en rassurant un peu les gens, ils arriveront à se déclarer beaucoup plus tôt, quoi. Parce que ça, c'est important. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, là, quand on a des dossiers avec des passifs énormes, on se dit, mais comment on va faire, quoi, même avec une procédure judiciaire. En 14 ans, ça paraît insoluble, insoluble. Ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on puisse éviter les procédures judiciaires, parce que c'est quand même traumatisant pour le paysan. Hein. On ne va pas au tribunal, on ne rentre pas au tribunal comme au Café du Coin. À savoir qu'une procédure en dressement judiciaire, c'est 1 an de procédure minimum, avec au moins 4 à 5 audiences au tribunal. C'est pas facile à vivre pour le paysan. Hein. Heureusement qu'on est là pour les accompagner.
Sur Radio-SIGR. Radio en redressement judiciaire.
Je sais. Bon, vous avez vécu ça, donc connaissez un peu.
Sauf
le...
Sauf que c'est une association, ça ne touche pas personnellement.
Oui, mais...
Tandis que là, ça doit paraître non seulement au journal officiel, mais... Enfin,
dans la presse locale.
Dans la presse locale.
Et c'est ça qui fait...
C'est-à-dire que, voilà, un beau jour, votre voisin, il peut voir dans le journal, « Ah, tiens, lui, il est en redressement judiciaire. »
Et en plus, les gens font l'amalgame entre redressement judiciaire et liquidation, quoi. Dès qu'ils voient ça, ils disent « ça y est, il est cuit ».
Alors profitez-en pour faire la différence, justement. Nous, à la radio Vassivière, on sait qu'on est en redressement et non pas en liquidation. Les effectivement, avant que ça nous arrive...
Alors, toutes les procédures collectives, il y a plusieurs étapes. Il y a le règlement amiable. Le règlement amiable, c'est la solution la plus simple à mettre en place et la moins traumatisante aussi, puisque ça se résout en 2 audiences au tribunal. Là, l'agriculteur se déclare en cessation de paiement, déclare ses dettes au tribunal, et le juge nomme un médiateur qui va contacter tous les créanciers et essayer de trouver un échelonnement avec chacun d'entre eux. S'il arrive à réussir ça, bon ben, il présente son dossier au juge et le juge avalise la procédure et le paysan s'engage sur l'engagement qu'il a pris vis-à-vis des créanciers avec le médiateur.
Juste avant ça, moi j'aimerais revenir sur qu'est-ce qui se passe pour arriver à une intervention judiciaire. Parce qu'il y a la difficulté, un paysan qui est en difficulté financière, qu'est-ce qui va décider que c'est un juge qui va s'occuper de cette situation?
Alors, c'est tout simple, c'est tout bête. La procédure c'est simple, elle dit que si au bout de 4 mois, vous êtes en cessation de paiement, vous ne devez pas rester plus de 4 mois en cessation de paiement. Au bout de 4 mois, vous devez vous déclarer auprès du tribunal en état de cessation de paiement. C'est ce qui déclenche la procédure.
C'est le premier truc.
Alors bon, ça, c'est pas respecté.
Moi, je peux dire pour Radio Vassivière, des factures qui s'accumulent, on ne peut pas les payer. C'était donc fin 2013, début 2014 hein, pour Radio Vassivière. À un moment, il faut quand même faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que les créanciers, ceux qui réclament de l'argent, d'ailleurs, ça serait intéressant de dire pour les agriculteurs qui c'est en général, il faut bien leur. Ils téléphonent, ils envoient des huissiers, ils arrêtent de fournir l'électricité, ça peut être plein de choses. Donc là, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est aller voir le tribunal, dire je ne peux pas payer, et ça s'appelle la cessation de paiement.
Voilà. Alors, donc, souvent, le déclencheur, c'est les banques, parce que c'est là qu'il y a le plus gros passif. Mais ça peut être aussi n'importe quel créancier qui dise ben, « je ne suis pas payé, je fais appel au tribunal » et là, la déclaration de cessation de paiement s'engage. Mais le mieux, c'est quand même que le paysan se déclare lui-même. Ça paraît plus simple auprès du tribunal.
Il y a moins de pression déjà. Il y a moins de pression parce que ça veut dire que le paysan s'est rendu compte du problème et qu'il essaye de faire quelque chose. Par contre, s'il se fait mettre au tribunal par un fournisseur ou par le banquier, je dis, voilà, quoi.
Et quand même, alors là, c'est aussi la contradiction qu'il y a avec la MSA, avec qui on a de très bons rapports sur le renouvellement social, c'est que c'est souvent la MSA, pour des retards de cotisation, qui déclenche la procédure. Mais bon, si vous voulez, eux, leur raison d'être, c'est de faire rentrer des cotisations. Hein. Ils n'ont pas de... On ne peut pas non plus leur jeter la pierre de ce côté-là.
Donc, première solution, ce que vous disiez, règlement à l'amiable,
voilà.
C'est ça. Après, on essaie de négocier entre les différents parties.
Et ça, c'est quand on est en état de cessation de paiement. Par contre, si vous n'êtes pas en état de cessation de paiement, vous pouvez faire un plan de sauvegarde. L'avantage du plan de sauvegarde, c'est que ça n'engage pas les cautions si on arrive à une procédure judiciaire après. Alors la procédure de sauvegarde, c'est exactement la même procédure que le redressement judiciaire classique, sauf que je vous dis, il y a cette garantie de ne pas engager les cautions.
Alors c'est qui les cautions ?
Et bien, les cautions, quand vous faites des emprunts avec une banque, souvent vous demandez, la banque vous oblige d'avoir des gens qui répondent à votre place. Ce qui fait que quand vous êtes en procédure judiciaire, la banque a le pouvoir de dire, ben, vous ne pouvez pas régler... dettes, mais on va faire appel à vos cautions.
Donc ça peut être des parents,
c'est ça. Là c'est dramatique parce que voilà la différence. Alors après il y a la procédure judiciaire classique, hein, celle qu'on connaît puis qu'on met en pratique malheureusement trop souvent.
Et c'est comment ?
Alors la procédure judiciaire, pareil, on déclare l'état de cessation de paiement, le juge ouvre la procédure.
Une période d'observation.
Il définit une période d'observation d'abord dans un premier temps de 2 mois. Il nomme un mandataire judiciaire qui va qui va faire la liaison entre l'agriculteur et les créanciers. Alors donc lui, on va être obligé d'y déclarer toutes vos créances. C'est lui qui va transmettre avec les créanciers. Au bout de 2 mois, on revoit le juge. Il voit comment. Alors l'avantage, c'est que dès que la procédure l'ouverture de procédure judiciaire est déclarée, toutes les dettes sont gelées. Il n'y a plus de remboursement à faire sur tout ce qui est antérieur. Hein. Par contre, après, on doit assurer le fonctionnement de l'exploitation normalement. On n'a plus le droit de faire de dettes.
Hein.
Mais tout ce qui est antérieur est gelé pendant toute la période d'observation. Alors la période d'observation peut aller normalement jusqu'à 12 mois. Voire 18 mois si vraiment la situation est difficile et s'il y a quelques problèmes parce qu'il y a des contestations de créances, des trucs comme ça qui font que ça retarde la procédure. On peut aller jusqu'à 18 mois. Pendant ces 18 mois, les créances sont gelées. L'agriculteur, pendant ces 18 mois, doit faire la preuve de la viabilité de son exploitation. Et au bout de 10 mois, il doit présenter un plan de redressement qui permet justement de maintenir l'activité sur l'exploitation. Alors ce plan de redressement en agriculture, on peut l'étaler sur 15 ans. Nous on le fait sur 14 parce qu'on se dit on garde une année. S'il y a une année qui est vraiment difficile, on peut toujours rallonger d'une année. Donc on fait un plan sur 14 ans. Ce plan est d'abord présenté au mandataire qui émet un avis, favorable ou défavorable. Après il est présenté au juge qui lui aussi émet un avis favorable ou défavorable. Et après, s'il y a un avis favorable de la part du juge, il est présenté aux créanciers et qui émettent eux aussi un avis favorable et défavorable. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais eu d'inquiétude avec les créanciers. Et à la dernière audience, et bien, les créanciers refusaient le plan. Et donc là, le juge est obligé de se ranger.
C'était la banque.
La banque, oui. Ça, c'est très rare, mais ça arrive.
Et dans ce cas, alors, quand...
Là, il prononce la liquidation judiciaire.
Ah oui. Ah oui, il n'y a pas
de viabilité possible puisque les créanciers refusent le plan.
Histoire de terre.
Alors il arrive toujours qu'il y ait quelques créanciers qui refusent ou qui ne répondent pas, mais quand c'est le créancier principal, comme les banques par exemple, là. Mais moi je vous dis, ça fait. Je dois avoir fait 15 ou 20 plans, jamais j'ai eu ce problème. C'est la première fois qu'on a vu ça à la dernière audience. Alors là, c'est dramatique, hein, tout s'écroule.
Et est-ce que dans les plans de redressement, est-ce que c'est juste l'activité générée par... l'argent généré par l'activité agricole qui va servir à, à redresser la situation, ou est-ce que les paysans peuvent faire appel à des, je ne sais pas si ça existe, des fonds de solidarité
Ah ben ça, ça existe pas. Dans la procédure, du moment que vous donnerez votre plan, il n'y a pas de souci, hein, personne ne va chercher à savoir d'où vient l'argent. Mais par contre,
vous
aurez
le plan. Vous avez une somme qui est définie à, voilà, payer, à payer chaque année.
Le 14e de la dette.
Et puis voilà, quoi, vous payez ou vous payez pas. Si vous payez pas, il peut y avoir un délai éventuellement, mais au bout d'un certain temps, le mandataire menace de mettre en liquidation.
Voilà.
Mais qu'est-ce qui peut... j'imagine que, comme vous avez vu plein de situations, est-ce que la plupart du temps, c'est la solidarité familiale, une activité qui va être réaménagée pour tirer plus d'argent de l'activité, ou est-ce qu'il y a d'autres sources?
Il y a quand même souvent, il faut quand même le dire, moi, étant en difficulté, je ne peux pas en causer, on a une part de responsabilité dans notre échec. Ça ne vient pas tout de la société, du système. Bon, alors c'est vrai que c'est l'accumulation de plein de choses qui fait que... Donc souvent, il y a quand même une remise en cause de l'agriculteur, hein, sur sa méthode de travail, sur sa méthode de gérer, qui fait aussi que la situation devient viable. Il y a la solidarité familiale en agriculture, c'est quand même important. Et souvent aussi, ils partent vers des fois une deuxième profession. Hein. Il y en a de plus en plus qui font du ramassage scolaire pour essayer de boucler les fins de mois.
Pas vu beaucoup de cas, mais le cas, j'ai vu, ils avaient, comment dire, ils faisaient des céréales, ils faisaient tout ça à la coopérative, et ils s'approvisionnaient à la coopérative, et la coopérative faisait l'aliment, et puis hop, mais ils regardaient pas trop, quoi, voilà. Et ils sont arrivés un jour devant, un gros trou, ils savaient plus quoi faire, quoi. En plus, c'était une banque qui faisait une ouverture de crédit, etc. Ben, ça a été dur de leur dire, ben, faut passer en redressement. Il y a eu tous les freins psychologiques qu'on connaît d'habitude, quoi. Ils sont passés. Mais l'hiver même suivant le début de la période d'observation, ils ont changé leur méthode pour alimenter leur bête. Ils ont fait moudre leur céréales, trouver un moyen de la conserver pour faire leur propre mélange, etc., etc. Résultat des courses, ils étaient beaucoup moins dépendants de la coopérative et ils pouvaient mieux contrôler leur... Voilà. Nous, ça nous semblait évident, mais il a fallu leur dire, ben, comment vous faites. Il a fallu tout un moment de discussion pour qu'ils appréhendent, pour dire, ben, il faut qu'on peut faire autrement. Donc, il y a ça, mais il y a peut-être aussi... ça, c'est un gros problème pour nous. Enfin, moi, j'ai essayé de faire ma comptabilité moi-même. La plupart des paysans ne font pas leur comptabilité, collectent les factures, envoient ça au comptable, et puis hop, ils laissent le comptable s'en démerder, quoi.
Et puis que le bilan comptable intervient
à la fin
de l'exercice,
ouais.
Et c'est pas un an et demi après que...
C'est trop tard,
ouais. Ah, bah oui, c'est là le problème. Mais bon, c'est vrai que... Faut reprendre l'historique du monde paysan. Le monde paysan, je m'étais confronté à ça il y a 30 ans, hein. Et c'est resté dans les habitudes, les comptes, on ne regarde pas trop, le comptable va s'en occuper, on se décharge de cette tâche, mais c'est vrai que ça serait important, que les gens reprennent une maîtrise comptable. Ça doit être avant tout des gestionnaires. Hein. Mais je ne veux pas dire pour ça qu'ils ne sont pas gestionnaires. Hein. Mais souvent, ils gèrent l'essentiel, la production, après... Et puis, il y a aussi... Il y a aussi des tentations dans cette profession. Hein. Le marchand de matériel qui vient vous présenter le superbe tracteur à 200 000 euros, des fois, ça vous fait briller les yeux.
Hein. Le comptable qui vous dit que pour baisser vos impôts, il faudra investir. voilà, quoi, c'est un peu limite aussi. Là. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de cas comme ça. Quoi,
oui.
Parce que les surfaces grandissent. C'est des trucs avec des passifs énormes, quoi. Parce que c'est des gens qui étaient tout à fait dans le système, puis allons-y, on continue. Puis alors ils arrivent à un moment. Oh,
ils maîtrisent plus d'abord sur l'exploitation, donc les revenus sont plus en rapport de. Et ils sombrent dans le surendettement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein.
D'immenses espaces. De vastes exploitations. Et d'imposants tracteurs. Au service de la rentabilité des travaux agricoles de grande envergure. Mais si vous êtes confronté à des espaces exigus, parsemés d'obstacles entravant les déplacements, ou à une topographie défavorable, vous avez besoin d'un tracteur aux dimensions moins généreuses. John Deere propose une solution adaptée, quels que soient vos besoins. Nous avons en effet développé une nouvelle gamme de tracteurs compacts.
88.6, 92.3, vous êtes sur Radio Vassivière et vous écoutez Histoire de Terre avec Jean-Louis Bouillet et Jean-Paul Guilmard de l'association Solidarité Paysan Limousin.
Oui, donc il y a quand même un lien, parce que vous parliez de la responsabilité du paysan en termes de gestion, mais il y a quand même un lien entre des situations de crise et un système qui pousse à...
Le modèle agricole actuel est responsable aussi de ça, parce qu'il les emmène droit dans le mur. Mais bon, c'est mon avis, c'est pas... Il ne faut pas prendre ça pour un compte.
Oui, en général, c'est ce qu'on pense à Solidarité Paysan, quoi, enfin bref.
Non, je pense que c'est important de le dire parce que pour justement en termes de l'image qui est renvoyée dans les médias ou sur qu'est-ce que c'est être en difficulté.
Est-ce qu'il faut aujourd'hui 200 hectares pour vivre en agriculture? Moi je dis non. Non, il y a quelque chose qui ne va plus là.
Et c'est toi, moi j'ai un voisin agriculteur, il a une quarantaine d'années. Il a 100 mères vaches. Il doit faire 100, 110, enfin une bonne centaine de villages par an.
Vous êtes toujours vers Boussac-Bourg, c'est ça?
Ah non, maintenant je suis atterri plus vers le sud, je suis à côté de Pontarion maintenant. Et je discute avec lui encore un peu. Bah, quelqu'un, il a les moyens, c'est quelqu'un qui gère bien son truc. Mais bon, il veut changer de tracteur parce qu'il a mal au dos. Ça fait un an qu'il est dessus, il trouve pas ce qui lui plaît, puis il regarde, il dit non, moi je veux pas investir tant. En plus, il cherche un 100 chevaux, il trouve que des 150 chevaux. C'est ce qu'on lui propose. Avec, il y a aussi le système quoi, qui fait que même quelqu'un qui est raisonnable, qui a du bon sens, il a de la peine à pouvoir maintenir son option quoi. Ça, c'est quelque chose de...
Mais bon, il y a quand même des trucs un peu bizarres, parce que moi, je vois, bon, souvent les gens chez qui on va, ils sont en difficulté. Il y a un tracteur qui est un peu à bout de souffle, qu'il faut faire des frais dessus. Ils ont quand même des fois une ardoise chez le marchand de matériel pour des réparations. Le marchand de matériel va plutôt leur conseiller de faire un emprunt pour acheter un tracteur que de réparer le tracteur, parce qu'il sait qu'il aura du mal à être payé. Que s'il fait un emprunt, la banque va financer, et lui... Et ça, c'est dramatique. Alors bon, je sais pas si je dois le dire à la radio, mais...
Toutes les vérités sont bonnes à dire, je pense.
Oui, je pense aussi.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dans les parcours, les choix qui sont faits au moment de l'installation? Parce que moi, j'ai entendu que, pour exemple, si on veut pouvoir toucher la DGA... La dotation aux jeunes agriculteurs, on doit présenter
un plan
de développement, ouais. Voilà. Et que généralement, si il n'est pas assez élevé avec des investissements suffisamment importants, il passe pas parce que l'exploitation est considérée comme non viable. Ça, vous confirmez ça?
Il y a même pire que ça. Un jeune qui veut s'installer avec ses parents grecs, par exemple. Systématiquement, pour rentrer dans le GAEC, il est obligé de s'agrandir. Alors que des fois, l'exploitation suffirait largement à les faire vivre tous les deux, puisque, preuve en est, ils ont souvent vécu tous ensemble. Mais c'est automatique. Alors bien sûr, c'est... Et puis bon, après, il y a le système des primes tel qu'il est conçu aujourd'hui, qui pousse les gens à l'agrandissement, parce que plus on est grand, plus on touche. Hein.
C'est là, sur l'agrandissement avec le jeune, le fils ou la fille, peut-être. C'est donc le système dotation jeune agriculteur qui oblige, ce que vous avez dit, c'est obligé, la dotation.
C'est la création du GAEC, pour créer un GAEC, celui qui arrive, il doit apporter une part d'exploitation, donc reprendre des terres.
C'est qui le dit ça, juste? Alors, c'est la loi,
c'est les règles, c'est les règles de la création de la société. Quoi.
Mais on peut aussi... Le problème, on leur dit pas et on leur fait pas de pub là-dessus. En fait, on peut aussi créer un atelier pour apporter la preuve qu'il y a un revenu supplémentaire. Quelqu'un s'installe dans le GAEC et on crée une activité permettant un revenu supplémentaire. Mais les centres de gestion, les conseils agricoles vont vers le plus simple. Vous agrandissez, vous achetez 50 vaches de plus, et basta. si vous voulez, c'est aussi un peu... Alors là, c'est un peu le truc culture creusot-creusot, un peu, je dirais, moi.
Oh, il n'y a pas conclusion.
Non, mais le fait de du maigre, et puis de... Voilà, on fait du...
C'est le plus simple.
On fait du broutard, c'est le plus simple.
Oui, mais après, un produit animal. Oui, mais enfin, ça aussi, c'est le fait aussi que souvent... L'engraissement est pareil, rémunéré à sa juste valeur. Et puis, oui. Tant qu'on avait l'Italie pour nous, pour nous éponger tous nos routards,
voilà, on ne se posait pas de questions.
On ne s'est jamais posé de questions.
Ah, ça, c'est clair. Là, on commence à s'en poser parce que l'Italie, il faut aller jusqu'en Turquie pour les vendre maintenant.
Et j'ai été comme mon collègue, j'ai été aussi agriculteur et producteur de lait. J'ai eu plein de difficultés. Alors là je reconnais aussi que. J'ai eu ma part de responsabilité dans bien des cas. L'handicap aussi, c'est que je me suis installé en 80... Enfin, je me suis installé en 70, mais j'ai acquis le foncier en 83.
Dans quel
coin, juste ? À l'ADAPR, côté de Guéret. Et j'ai acquis le foncier en 83, et les bâtiments, avec des prêts à 13,5. Ce qui fait qu'en 20 ans, j'ai remboursé 3 fois le capital. Trois fois. Donc ça vous plombe. Bon, puis après, je vous dis, bon, j'ai sans doute eu plein de... Mais on met du temps à le reconnaître, hein. Vous savez, on est tous pareils, on met en cause la terre entière, et en mise en cause personnelle, on est quand même beaucoup moins fort. Donc...
Là, vous l'avez dit trois fois, quand même.
Oui. Mais bon, voilà, donc les difficultés sont là, et à un moment, je ne pouvais plus rembourser, quoi. Je pouvais rembourser. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas l'association, il n'y avait pas les plans d'engraissement. Donc il y avait la prime à la cessation laitière qui arrivait. Et avec cette prime, ça me permettait de payer mon retard à la banque. Et ça me payait mes annuités pendant 7 ans.
La prime...
Arrêter de produire du lait.
Arrêter de produire du lait, et vous donne de l'argent.
Voilà. À l'époque, j'ai touché 16 millions pour arrêter. De centimes. Hein.
Centimes de francs.
Voilà.
C'était la période où il y avait beaucoup trop de production laitière, où on a mis en place les quotas laitiers et tout ça.
Donc, pour moi, c'était du pain béni. Enfin, il a fallu quand même redémarrer une production à côté, une production allaitante. J'ai démarré avec 6 veaux que j'ai gardés de mes vaches laitières croisées en Limousin. Et je suis reparti avec ça pour remonter à acheter le Limousin. Je ne vous dis pas que ça a mis du temps. Et bon, alors là, je vous dis, j'ai quand même eu l'aide de copains qui m'ont des fois cédé quelques veaux pour faire des vaches, qui m'ont aidé financièrement, qui m'ont accompagné pour négocier des fois avec des fournisseurs. Et même aujourd'hui, je leur tire mon chapeau parce que je pense que s'ils n'avaient pas été là, je serais plus là. Et donc, je suis reparti comme ça. Et à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas les procédures, mais il y avait une cellule à DDT, à l'époque c'était la DDA, qui jugeait si votre exploitation était viable ou non viable. Et si vous étiez non viable, on vous orientait vers la réinsertion. Et à la première, j'avais présenté ce projet avec la prime cessation laitière que je leur prouvais que j'étais capable de repartir. Ils l'ont refusé la première année. Et j'ai persévéré, j'ai même été trouver le directeur de la DDA à l'époque, et j'ai expliqué, j'ai dit non, écoutez, moi je suis sûr que je peux m'en sortir, je ne veux pas être inséré. Et donc, il ne m'a pas cru, mais ils ont accepté le dossier. Mais il m'a dit, vous savez, en plus moi j'ai une toute petite structure, hein, j'avais 35 hectares. Donc, et il a fini par me dire, vous savez, une exploitation comme la vôtre, elle n'a plus d'avenir. Voilà, c'était le terme. Donc, si vous voulez, toutes ces mesures, en définitive, elles étaient faites pour éliminer toute une partie de l'agriculture qui eux, jugeaient non productive. Et heureusement que je ne les ai pas écoutés. Alors bon, il y a eu quand même aussi plein de choses qu'on fait. Tout n'est pas dû à moi. Hein. Alors, à l'époque, on avait deux enfants en bas âge, mais qui commençaient à se débrouiller. Ma femme est partie travailler à l'extérieur. Et je peux vous dire qu'avec le salaire de ma femme... Tout a fonctionné. Moi, j'ai pris un emploi extérieur, j'ai fait du contrôle laitier, j'ai même fait, je peux le dire, des journées au black pour essayer de survivre. Mais on a fini à arriver à la retraite avec un capital d'exploitation. On a conservé l'exploitation, le terrain et tout. Et je peux dire que je suis quand même assez fier de ma réussite.
Voilà. Et ce que vient d'expliquer Jean-Paul est important pour montrer justement que... Certes, on a des responsabilités, quand on est paysan en difficulté, il y a des choses qui ont... Mais il y a tout de même un contexte économique flagrant. On s'est installé à peu près à la même période. Et je pense qu'il y en a eu d'autres qui ont été en difficulté pour ça. Pourquoi ? À l'époque, l'inflation, juste avant les années 80, elle était à 12%. 12, 13, suivant les années. Et tous les prêts, même des prêts fonciers, moi, quand j'ai emprunté pour acheter ma terre, le taux normal était 13,5. Oui, 13,5 sur 20 ans. On m'a accordé un prêt jeune agriculteur. C'est descendu à 7. OK ? Et, mais au bout des 7 premières années, je devais repasser au taux normal. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Donc j'ai renégocié avec le Crédit Agricole, ils m'ont maintenu à 7. Les prêts, ils étaient à l'époque à 2,5.
Pour comme ça, à 2,5 pour tous les autres gens qui voulaient acheter, par exemple.
Voilà. Les prêts étaient, dans l'espace de 2 ans, de 80 à 83, tous les prêts, l'inflation était tombée aux environs de 2%. Tous les prêts, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils ne pouvaient pas laisser les prêts à 13%. Tous les prêts étaient descendus entre, allez, pour du court terme, c'était 5, 6, mais pour du long terme, c'était 2, 2,5, 3 maximum.
Donc ça veut dire que pour les banques, le moyen de se faire de l'argent, c'était sur la propriété agricole.
À l'époque, ah bah, les prêts fonciers étaient vraiment chers, je vous dis, moi, 13,5. Et je n'ai pas pu le renégocier. J'ai pu renégocier parce qu'on avait un prêt immobilier pour la maison, parce qu'on avait séparé les deux, parce qu'il fallait drainer toutes les banques pour arriver à faire la soudure. Par contre, j'ai pu renégocier le prêt pour la maison avec le Crédit Foncier de France, mais avec le Crédit Agricole, ça a été net. C'était 13,5 jusqu'au bout. Je vous dis, 7 millions empruntés, 21 millions remboursés.
Ah oui, non, mais c'est incroyable. Je pense que le Crédit Agricole a bâti sa fortune et son empire mondial
et continue
sur les paysans français. Hein. Ça, je suis désolé, c'est soi-disant une caisse coopérative. Mon œil.
Et est-ce que on est obligé de passer par le Crédit Agricole ? C'est juste pour.
Non, maintenant, il y a d'autres banques.
Oui, mais vous savez, ça reste des banquiers. Ouais. Banquier, son métier, c'est gagner de l'argent et prendre le moins riche possible. Donc.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce taux à 13,5%, c'était pas seulement au Crédit Agricole, c'était toutes les banques qui le pratiquaient.
Ah oui, c'était comme ça.
Ouais. Mais ceux qui étaient le plus présents dans le monde agricole.
Dans les années 80.
Ils étaient seuls, en 80.
Ils étaient seuls encore.
C'est qu'après qu'il y a eu une réforme où la BNP, qu'est-ce qu'il y a eu, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, ont pu accéder au Crédit Agricole.
Christiane, pourquoi vous restez chez nous ?
Parce que j'y suis bien.
Alors on a créé les avantages fidélité.
C'est une bonne idée.
Découvrez en agence les avantages fidélité du Crédit Agricole. Une raison de plus de faire confiance à votre banque coopérative.
Dans ce que vous dites, donc il faudrait revenir sur qu'est-ce que ça veut dire faire un accompagnement quand vous êtes à Solidarité Paysan. Et moi j'aimerais savoir si... Donc parmi vous, il y a des personnes qui ont des compétences comptables ou gestionnaires, ou je ne sais pas. Et j'ai l'impression aussi, mais ça vous me direz si je me trompe ou pas, que votre objectif, c'est aussi peut-être d'accompagner les gens dans leur choix de vraiment vouloir rester paysan. C'est-à-dire que j'imagine que l'extérieur, les créanciers, les juges vont peut-être plutôt orienter vers une réinsertion.
Non, pas forcément. Pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que quand même la justice est à l'écoute des difficultés du monde paysan. Le seul problème, c'est qu'il y a un cadre à respecter. Hein. Une exploitation qui n'est pas viable, elle n'est pas viable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc il y a un moment, même s'ils veulent être assez cool, ça paraît pas possible. On a vu le cas le jour au tribunal. Bon, ben, il y a un moment, eux aussi, ils disent stop. Et puis en plus... Quand je disais tous ceux qui interviennent pour donner leur avis, il y a aussi le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, qui lui donne un avis et qui n'est pas toujours le plus simple à convaincre.
Parce que c'est quand vous racontiez votre histoire personnelle, vous disiez que la première fois que vous aviez présenté une espèce de plan de redressement, il avait été rejeté, on vous disait plutôt de vous réinsérer.
Oui, c'était comme ça, et en plus... En plus, pour vous dire, même une fois que mon dossier a été accepté, que j'ai pu toucher la cessation laitière, le banquier, j'étais en, comment ils appellent ça, en gestion, tu sais, à la banque, quand tu ne payes plus, il a commencé la gestion.
Déchéance du terme.
Non, tu sais, quand tu passes au contentieux, en gestion contentieux, donc j'avais plus qu'à faire à cette personne, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière échéance où je remboursais mes prêts, il n'y croyait pas. Il m'a dit, mais non, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Et je me suis imposé d'aller payer la dernière échéance, parce que d'habitude j'ai envoyé le chèque, j'ai été payé à la dernière échéance, et j'ai dit, ben voyez, je m'en suis sorti. Et là, la seule réponse qu'il a eue, vous avez eu de la chance. Voilà. Mais je crois aussi que faut avoir envie de se battre, quoi. Si on ne se bat pas, on est vite laminé, on vous écrase et vous disparaissez. Hein.
Lui a été seul pour pouvoir survivre. Moi, j'ai été seul aussi. Je pense que ça aurait peut-être pas changé grand-chose, mais je pense que ça, moralement, psychologiquement, ça nous aurait aidé pour mieux nous battre, quoi. Et je pense que c'est un peu ça, notre rôle, c'est d'aider les gens à qu'ils reprennent les choses en main, parce que la plupart, toi tu le vois plus que moi, la plupart se trouvent devant une situation, ils sont dépenaillés, ils savent plus quoi faire.
Ils arrivent même à perdre confiance en eux-mêmes, c'est ça le pire, voilà. Parce que le jour où le gars il a baissé les bras, c'est terminé, il n'y a plus de possibilité.
Alors ce qui est, bon, là je vais être honnête, il y a des gens qu'on voit comme ça en difficulté, on se demande si on veut les aider, parce que c'est à l'opposé de ce que nous pensons, de ce que devrait être le système agricole. Mais il n'y a pas de miracle. Si on veut une autre agriculture, il faut qu'il reste des paysans, parce que sinon, s'il ne reste pas de paysans, ce n'est pas la peine qu'on essaye de promouvoir une autre agriculture. Donc on est un peu des pompiers, mais en espérant que ça permette de reconstruire quelque chose, quoi. Voilà, un peu. Moi, c'est comme ça que je le conçois, un peu, quoi.
Alors, du coup, en quoi ça consiste un accompagnement, concrètement ?
Ben, l'accompagnement, déjà, ça se passe par une première visite, à la demande du paysan. Ouais. On essaye de faire le tour de la situation, surtout économique. Alors, bon, on n'est pas des experts, hein, on n'est que des paysans. Bon, ceci dit, quand même, on a une histoire. Donc, on voit un peu, on voit très rapidement où ça a fauté, où ça a péché. Et puis on essaye de voir avec eux quelles solutions on peut mettre en place pour sortir de la crise. Alors ceci dit, moi je suis devenu très prudent parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'intervenants qui décident de la viabilité ou de la non-viabilité de l'exploitation. Et jamais je vais dire, eh ben, on va trouver une solution, parce que la solution, je ne l'ai pas. La solution, ce n'est pas moi qui la déciderai, ce sera tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et donc on essaye de voir où ils en sont et s'il y a réellement une possibilité. Et je ne vous cache pas que s'il n'y a pas de possibilité, je le dis d'entrée. Je le dis d'entrée parce que ce n'est pas la peine de créer des faux espoirs, parce qu'après c'est tout qui s'écroule et c'est terrible. Donc d'entrée, j'ai mis des doutes. Parce que je ne veux pas les emmener en bateau et qu'au dernier moment, on soit obligé de leur dire, eh ben non, ce n'est pas possible. Parce qu'après, il faut quand même voir, quand on arrive au point extrême où il n'y a pas de solution, où on va vers une cessation d'activité, c'est très difficile à accepter par les paysans, hein, parce que c'est un projet professionnel qui s'écroule de une à deux générations, parce que ça reste même si c'est devenu de véritables entreprises, les fermes, c'est avant tout des exploitations familiales. Il y a les enfants, des fois les parents, et tout le monde est impliqué, et tout le monde se bat pour que ça. Et quand vous leur annoncez qu'il n'y aura pas d'avenir, que tout va s'écrouler, c'est terrible. Moi, je sais que là, c'est des moments les plus difficiles. Moi, j'ai fait 4-5 liquidations. Alors là, heureusement que les services sociaux sont là pour prendre leur relève derrière, parce que des fois, on va au drame. Hein.
Alors sinon, si on pense que c'est viable, ben, il nous faut après demander aux agriculteurs de se plonger dans leurs factures, leurs comptes, demander leurs comptes, essayer de voir avec eux comment ça se passe, essayer de faire un budget prévisionnel avec des propositions pour le remboursement, le dividende, quoi, ce qu'on appelle le dividende. Et puis on établit un dossier avec un peu l'historique de l'exploitation, on essaye d'expliquer au tribunal
qu'est-ce qu'a causé
les difficultés de l'exploitation, et on va jusqu'à dire, voilà, en présentant un plan, on dit, nous pensons, ils peuvent dégager tel revenu, cela devrait suffire à, non pas combler le déficit, mais permettre de rembourser le dividende, quoi. Donc les dettes antérieures.
Alors quel conseil vous donneriez ?
Le conseil, c'est, ça serait de dire aux paysans, dès qu'ils sentent les premiers frémissements de difficultés, qu'ils n'attendent pas, qu'ils se retournent vers n'importe qui, la MSA, leur comptable, mais qu'ils ne restent pas isolés, qu'ils fassent quelque chose pour qu'on puisse intervenir le plus tôt possible. Parce que je vous dis, toutes les difficultés qu'on a sur les dossiers les plus difficiles, c'est qu'ils ont trop attendu et le passif est difficile à résorber.
En tout cas, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a l'air d'avoir de plus en plus de paysans en difficulté et que donc on ne peut pas dire que c'est parce que ce sont des personnes qui gèrent mal leur exploitation et qu'il y a quelque chose de contextuel. Enfin, c'est quelque chose de peut-être de rassurant à entendre quand on sait qu'on n'est pas isolé, qu'on est plusieurs, voire nombreux à être dans des difficultés proches et que c'est peut-être plus facile d'aller demander de l'aide dans ces cas-là.
Oui, mais vous savez, le monde paysan, il y a quand même quelque chose dans le monde paysan qui est particulier, c'est qu'on a la soif d'accaparer des terres, de les transmettre. Et ça, cette idée de transmettre, c'est ancré dans la tête des paysans. Et quand on arrive dans les situations où il n'y a pas d'autre solution que la cessation d'activité, c'est très difficile à faire accepter. Je sais que là, c'est des trucs, on a vraiment du mal, quoi. On a rencontré des psychologues, ils nous disent quand on en arrive là, c'est comme quand on perd un proche, hein, il faut les amener à faire le deuil de quelque chose, et tant qu'ils n'ont pas fait ce deuil, ils sont incapables de se reprojeter dans quoi que ce soit. Alors là, on est un peu démunis, parce que là, on n'est pas psychologue, on n'a pas les capacités, donc là, on s'appuie beaucoup sur le service social.
Parce qu'il y a un attachement à la terre et à la propriété.
Moi, c'est ce que je dis souvent, où je suis, c'est ce qui me fait le plus chier dans le cadre de dire, c'est quand vous allez chez le paysan, qu'on sait qu'il n'y aura pas de possibilité, et puis que vous avez le gamin qui a 10-12 ans, qui est déjà plus paysan que son père, parce que lui, dans sa tête, il va prendre la suite de son père. Vous vous rendez compte, le traumatisme, toute la famille en prend plein la tronche. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est le monde paysan. Hein. Mais bon, ceci dit, il y a quand même des cas où on arrive quand même à obtenir des résultats. Hein.
Est-ce que dans les paysans qui arrivent à redresser la situation, est-ce que c'est passé par un changement dans leur pratique agricole ?
Ah ben oui, il y a quand même eu des modifications qui ont été apportées, c'est pas possible autrement, hein, parce que je vous dis, on a quand même on a une part de responsabilité dans nos échecs, hein, faut pas s'enlever la tâche. Hein. Alors bien sûr, après c'est l'accumulation, quand vous avez déjà merdé, je sais pas moi, au niveau de reproduction, et puis que vous avez une sécheresse qui arrive et puis la chute des cours, bon ben c'est tout s'écroule. Quoi.
Mais est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que parce qu'il y a les orientations au niveau de l'État et de l'Europe, le modèle économique agricole qui est très répandu, est-ce que les gens qui vont faire des choix de pratiques agricoles un peu décalées par rapport à ces grandes orientations-là, est-ce qu'ils s'en sortent mieux que ceux qui restent dans un système conventionnel?
Logiquement, ça devrait, mais on n'a pas assez de recul pour le dire. Mais moi, je peux quand même vous dire qu'il y a des gens, on peut les amener en procédure judiciaire, s'ils ne se remettent pas en cause, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
Parce que... Sans donner des noms, les derniers cas que tu as vus, il est évident pour toi qu'ils ont trop de surface.
Ouais, ouais.
Et que le meilleur moyen d'aller mieux, c'est d'arrêter de manger de la terre. Quoi.
Voilà, et puis de revenir à quelque chose de gérable au niveau familial. Parce que quand vous êtes deux sur une exploitation et puis que vous avez plus de 200 hectares, moi je vois en plus en élevage plein air avec du broutard, je ne vois pas comment vous pouvez vous en sortir.
C'est ça le type, puisque je ne sais pas, il y a peut-être un type, des trucs qui reviennent souvent, c'est l'agriculteur en difficulté, en creuse, comment dire, le portrait robot, c'est ça, c'est le éleveur de broutard.
Pas un portrait robot, mais on rencontre quand même plus de modèles comme ça. Quoi.
Comment vous
pouvez
dire comment?
Et ben de ces grandes structures où les gens, d'abord au point de vue, parce que vous savez, un paysan, il n'a que deux bras, hein, et les journées font que 24 heures. Donc quand vous avez plus de 200 hectares, vous avez 180 vaches au champ à faire des vélages, moi je dis que déjà un paysan qui arrive à maîtriser 100 vélages tout seul, c'est un bon, hein, c'est un professionnel. Quand vous arrivez à 180 vélages, vous dites, comment il fait. Donc ça génère des pertes, il va à l'essentiel. Donc là, le critère de rentabilité, il est remis en cause. Hein. Ça ne devient plus gérable.
Ce sont des systèmes qui, en plus, vu le niveau d'investissement et de travail, qui sont sur le fil du rasoir constamment.
En permanence.
Et ça veut dire qu'il suffit du moindre incident pour que ça bascule.
Par exemple, un incident climatique.
Voilà. Sinon, c'est pas dit, par exemple.
Oui. Écoutez, moi, non, mais y a des tas de facteurs, mais moi, j'avais pas 40 hectares. Mais c'est en plus des difficultés avec le crédit, etc., c'est un incident climatique qui m'a fait plonger, quoi. Mais le problème, c'est que j'étais dans une situation où, sur le fil du rasoir, et donc, boum. Et ça, c'est... Enfin, bon, je vous ai demandé, mais là, c'est un avis très personnel. Pour moi, oui. Bon, on aide parce qu'on veut maintenir des paysans, mais pour moi, le système agricole est à changer complètement.
Ah bah oui, ça, je suis d'accord.
Il faut partir vers une agriculture paysanne le plus possible. Ça ne dépend pas de nous, de Solidarité Paysan, ça dépend des politiques, de la société en général. Et je pense qu'il faudra se poser le problème, il faudra poser au niveau des pouvoirs publics le problème de la dette en agriculture. Tout comme il faudra se poser le problème de la dette au niveau de la France, du pays. Alors moi, je vais être radical, hein. Moi, je pense qu'il y a une partie de la dette qui est illégitime, il faudra l'annuler.
Bon, pour vous prendre un exemple, les commissions de surendettement pour les particuliers, il arrive un moment où on demande l'effacement de la dette. En agriculture, moi j'ai fait plein de plans où j'ai demandé l'abandon de la dette pour certaines dettes, ou même partielle. C'est très rare qu'on l'obtienne. Moi, on l'obtient des fois par hasard, et parce que les gens n'ont pas compris, et ils ne causent pas la bonne case sur le document, mais sans ça, on l'obtient pas. Banquier, jamais il a dit non, on va rembourser la moitié. Voilà, c'est ça le problème. Et je pense qu'il y a des dettes qui devraient être effacées, surtout les dettes bancaires, parce que quand même, faut quand même dire que les banques se sont gavées.
Ouais,
se sont gavées.
Payer trois fois.
Ouais, les banques se sont gavées et elles se gavent encore, parce qu'aujourd'hui, un agriculteur en difficulté, quelles solutions ils ont à apporter? Souvent, ils pourraient faire ce qu'on fait avec une procédure de redressement judiciaire, c'est dire on reprend toutes les dettes, on refait un prêt global, on étale ça dans le temps, et ça va passer. En plus, ça met une échéance de 12 à 18 mois après, donc ça permet aux paysans de souffler. Ça, ils ne veulent jamais le faire. Moi, j'ai dû arriver à négocier ça une fois dans les 6-7 ans que je suis à l'association. Ce qu'ils font, c'est du court terme. C'est-à-dire qu'ils leur prêtent 25-30 000 euros pour passer l'année, à je ne sais plus combien, 4 ou 5%, et puis à la fin de l'année, donc on n'a pas changé. Au bout de l'année, ils sont dans la même situation. Dans la même situation, même pire, parce que la situation s'est dégradée entre temps. Et en plus, il y a quand même un phénomène dont je parlais, c'est que moi, ce que j'assiste à depuis que j'accompagne, c'est qu'on a un déplacement de la dette des banques vers les fournisseurs. C'est-à-dire que maintenant, les banques, elles ont trouvé une solution très efficace pour se couvrir et ne prendre aucun risque, alors qu'elles sont déjà, dans les procédures collectives, elles sont déjà privilégiées. Hein, c'est-à-dire que c'est elles qui sont payées en premier. Mais malgré ça, maintenant, elles font faire un abandon de créance aux paysans sur ces primes, c'est-à-dire qu'ils abandonnent ces primes pour payer ces échéances, donc eux, ils sont couverts, donc pour eux, ça va très bien. Par contre, le paysan, il se retrouve avec 20 ou 30 000 euros de dette chez le marchand de matériel, 15 ou 20 000 chez le marchand d'aliments, chez le vétérinaire. À terme, ça peut mettre en difficulté tout un pan de l'économie locale.
Ce qui est certain, c'est que depuis une décennie, voire plus, il y a un véritable plan social qui est en œuvre, de l'agriculture qui est en œuvre en France. Personne n'en parle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que chaque année, il y a des paysans, soit qui suicident, soit qui disparaissent, soit qui arrêtent. Et c'est un plan social pour moi, ça. On enlève des emplois, on élimine des emplois qui pourraient rester. Mais bon, c'est peut-être dû aussi au fait du monde paysan, tout de même. Bon, voilà, quoi. Très dispersé sur toute la. Et non pas sur un point de production précis, quoi. Mais c'est un plan social pour moi, là.
Et Solidarité Paysan, c'est pas une association dans laquelle on passait à l'action offensive, entre guillemets, parce que je dirais défensive, c'est donc aller aider les uns les autres à se défendre face à la procédure de liquidation ou de redressement. Est-ce que vous avez aussi des actions de revendication, de manifestation? Je sais pas, non, c'est pas votre, votre affaire.
On fait remonter au niveau national, par le biais du national, on fait remonter ce qu'on trouve injuste, ce qui paraît intolérable dans toutes les réglementations qui sont faites. Là, en 2014, ils en ont remis une couche sur les procédures collectives qui font qu'elles sont encore plus compliquées et encore plus douloureuses pour l'agriculteur. Donc là, on a contesté au niveau national, mais il n'y a pas d'écoute. Politique agricole est dans un créneau et on se demande même si ce processus n'est pas fait pour éliminer.
En fait, on peut guère être, par le biais de la structure nationale, ne guère être que dans un rôle d'alerte par rapport aux autorités nationales. Quant à avoir une action plus radicale, c'est pas notre rôle, c'est le rôle des syndicats normalement. Et à la limite des rôles des politiques aussi, de prendre en main les problèmes et de dire, d'écouter les problèmes et de dire, non, moi je suis pas d'accord avec ça, il faut... C'est assez difficile, quoi.
Alors c'est vrai que...
C'est comme si vous demandiez, c'est peut-être limite comme comparaison, vous demandiez aux pompiers qu'est-ce qu'ils font pour qu'il n'y ait plus d'incendie et que ça soit mieux assuré, quoi.
On est tenté aussi des fois de dire on va tous les mobiliser et puis on va faire une manif ou un truc comme ça. Mais ça c'est dû au fait aussi qu'on est tous des anciens syndicalistes et puis qu'on a encore cette fibre qui nous anime un peu, quoi. Mais c'est pas notre rôle. Et puis je vous cache pas que c'est comme aujourd'hui mobiliser des chômeurs. Je sais pas si vous en avez eu beaucoup dans les manifestations, mais moi j'en vois pas beaucoup. Ben, le paysan qui est dans la mouise, il baisse la tête, il courbe les chines et puis il essaye de raser les murs. Malheureusement.
C'était Histoire de Terre avec Jean-Paul Guilmard et Jean-Louis Bouillet, paysans retraités et bénévoles de l'association Solidarité Paysan. Ce réseau a besoin de forces vives pour accompagner les agriculteurs en difficulté et en détresse. Si vous pensez pouvoir apporter votre aide, contactez-les Solidarité Paysan Limousin au 09 54 91 45 03. Histoire de Terre, tous les mois, une heure sur l'agriculture, est diffusée sur Radio Vassivière un mercredi sur deux à 19h et un samedi sur deux à 11h. Les anciennes émissions sont toutes sur radiovassivière.com, rubrique émission Histoire de Terre. À bientôt!